enchaîne avant de lancer le sujet suivant. Donc dans mon rôle d'hôtesse d'accueil, pour ceux et celles qui auraient conservé la clé de leur chambre parce que logés à la FIAP, il serait souhaitable de la rendre à Sabine Bigotte qui est à l'entrée. Voilà, premier message. Deuxième message, compte tenu du retard pris, on s'oriente tout droit vers une suppression de la pause sous la pression de mes voisins. Notamment parce que je crains très fort la durée du repas, même si on nous dit toujours que ça peut être rapide. On a vu hier que ce n'était pas le cas. Bon, cela étant, si on fait le lien donc, entre hier après-midi et ce matin, hier après-midi, la table ronde visait à dégager des zones de consensus et d'objectifs qui pourraient être partagés et posés comme principe d'action. On a vu qu'il y avait quand même des choses concrètes, me semble-t-il, qui se dégageaient. Et l'idée étant toujours d'avoir une pluralité d'acteurs, parce qu'on voit bien que dès qu'on va sur le territoire, ce n'est pas nous tout seuls, et ce n'est pas la psychiatrie qui a la prétention de tout faire tout seul. Donc là, on avait cette petite transition ce matin, même si on voit bien qu'il faudrait pouvoir la densifier, parce que là, on est très rapidement sur les questions de contenu, de modalité d'intervention, et je pense que c'est quasiment un colloque à part entière qu'il faudrait pouvoir dédier à ces questions-là. Et maintenant, on va venir sur la question des outils. Alors, c'est peut-être un terme un peu générique. Ce n'est pas que des outils de support, c'est-à-dire comment on construit un territoire, qu'est-ce qu'il faut pour construire un territoire, qu'est-ce que ça bouge, quelles compétences sont nécessaires, et ainsi de suite. Ce n'est pas que du support au sens de nos fonctions de support, parce que ça implique, on va le voir, très directement, les cliniciens, les médecins, les soignants, sur certains thèmes, un peu moins sur d'autres, mais notamment sur certains thèmes. Donc, je ne vais pas me faire plus précis sur la thématique à suivre, elle vous sera présentée directement. Mais on voit bien qu'il y a un sujet de planification. À un moment donné, il faut se dire, mais comment est-ce qu'on planifie cette offre de soins qui est réputée un peu variante ou variable sur le territoire? Alors là, on est encore sur un domaine qui reste très sanitaire. On va le voir, on n'est pas encore dans la dimension multiforme ou multipartenariale du territoire, mais on essaie de dégager des outils pour planifier déjà l'offre de soins psychiatriques sur le territoire. Et non pas faire retour, comme c'est un peu le cas systématiquement, sur la façon de construire l'hôpital.
Bien, merci. Bonjour. Nous allons donc vous faire une présentation dont l'objectif principal est d'illustrer un exemple de partenariat qui mobilise des compétences complémentaires autour de projets qui concernent l'ancrage d'un établissement spécialisé sur un territoire. L'histoire qu'on va vous raconter, c'est celle d'un secteur, du secteur 38I01, qui est donc, comme ça a été rappelé hier, un des 320 secteurs existants en matière de psychiatrie infanto-juvénile. Et on va faire cette présentation à trois voix différentes qui incarnent justement la complémentarité des métiers qui ont été mobilisés. Donc, je suis Pierre Micheletti, je suis médecin de santé publique chargé de mission au centre hospitalier Alpes-Isère que dirige Pascal Mariotti. Je serai une des trois personnes qui va s'exprimer. À mes côtés, Frédéric Sinzel, qui est pédopsychiatre, chef du pôle de psychiatrie infanto-juvénile. Et enfin, Pierre Clapp, qui est géographe, qui travaille pour l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Et ce sont donc le projet que nous allons vous présenter maille nos compétences respectives. Nous avions, avec l'agence d'urbanisme, une antériorité. Nous avions travaillé avec l'agence d'urbanisme sur la psychiatrie adulte et un certain nombre d'outils avaient été produits que nous avons utilisés pour donner une logique objective et concrète quand notre établissement a travaillé au passage de 4 pôles territoriaux à 3 pôles, et nous voulions le faire sur la base de critères objectifs, et donc nous avions déjà cette antériorité dans le partenariat. Cette histoire du 38I01, Frédéric y reviendra ensuite, mais elle s'inscrit dans un contexte particulier qui est celui de la constitution d'une communauté hospitalière de territoire qui va entre autres rapprocher l'hôpital de Saint-Égrève avec le CHU de Grenoble. Et dans la construction, on ne va bien sûr pas vous détailler cette CHT, ce n'est pas l'objet de la présentation, mais dans cette construction, elle a eu pour corollaire que nous avons hérité du dernier territoire, du dernier secteur qui était encore sous la responsabilité du CHU. Et ce 38I01, donc, est un des éléments qui a été versé dans la corbeille de la mariée quand on s'est acheminé vers la construction de cette CHT. Elle a posé, cette CHT et l'arrivée du 38-I01 posent un certain nombre de questions, dont celui de renforcer l'allocation de ressources, parce que le CHU n'avait bien sûr, sur l'ancrage territorial, pas tout à fait le même niveau d'exigence et d'implication qu'on peut le faire quand on est au sein d'un CHT. Mais elle a posé aussi, et c'est l'objet du complément d'information qui va être fait en introduction par le docteur Sinzel, elle nous a amené à nous questionner sur comment nous pouvions rebattre globalement les cartes de l'offre de soins sur le territoire en ce qui concerne la répartition des CMP, la répartition des hôpitaux de jour et des CATTP du fait de l'arrivée de ce territoire additionnel. C'est donc plus spécifiquement de cet aspect dont nous allons vous parler et encore plus spécifiquement des interrogations dans lesquelles nous avons été pour créer ou réfléchir à la création d'un nouveau CMP excentré. Cette présentation, elle va avoir des limites. Nous allons passer rapidement sur les éléments de méthode, mais nous pourrons y revenir autant que vous le souhaiterez dans le débat qui suivra. Et des limites également parce que concernant l'accessibilité des patients aux structures, elle s'est faite sur le recours à des véhicules individuels. Et on sait bien que dans la réalité, ce sont souvent les transports en commun qui sont utilisés. Donc c'est une limite que nous posons d'emblée, mais qui est adoucie par le fait qu'on se situe sur un territoire très, très rural, hein, et que les transports en commun, la desserte est plus compliquée qu'en milieu urbain. Voilà, je passe donc la parole à Frédéric Sinzel qui va compléter l'introduction. Puis M. Clapp reviendra sur des éléments de méthodologie et commencera à présenter des résultats. Et ensuite, ces résultats seront complétés par Frédéric Sinzel à nouveau.
Oui, bonjour à tous. Merci Pierre de m'avoir présenté. Donc, on va vous parler de la communauté hospitalière de territoire. Les termes sont importants. Communauté, ça a résonné. On se disait hier à la réunion, à la journée d'hier, qu'en est-il du terrain? Est-ce que les projets partent du terrain ou est-ce que les projets partent des planificateurs? Je crois qu'effectivement, les projets sont impulsés par des planificateurs et qui doivent être ensuite repris et saisis par le terrain. Et le terrain, il se saisit des choses quand les termes du projet résonnent d'une certaine façon avec nos pratiques. Et là, ça a résonné. Communauté, territoire. Alors, la CHT, c'est trois axes. Un premier axe, les activités territoriales, les CMP, les CATTP, les hôpitaux de jour. Le deuxième axe, c'est les activités spécifiques et les activités de recours, c'est-à-dire dans notre domaine, l'hospitalisation. Et c'est vrai que ce qui nous a intéressé, et j'en remercie la direction du centre hospitalier Alpizère, M. Mariotti en particulier, c'est d'immédiatement impulser la notion de projet médical partagé. Comment, à partir de nos capacités propres, nous pouvons, avec le CHU de Grenoble, avec d'autres hôpitaux de la région, comment nous pouvons travailler ensemble. Comment nous pouvons donc travailler ensemble et conjuguer nos capacités spécifiques, puisque aussi bien le CHU que le centre hospitalier Alpizère développent des activités spécifiques. Donc voilà la résonance initiale qui nous a, nous, plongé dans le projet, plutôt que de craindre un grand machin ou une usine à gaz, comme je l'entendais beaucoup à l'époque de la part de certains de mes collègues. Alors, on peut revenir à la précédente. Le challenge qui nous était... Non, celle d'avant. Voilà, le challenge qui nous était posé, c'est posé en plusieurs points. D'abord, intégrer un secteur de proximité, le secteur I01, l'intégrer dans un pôle que vous voyez ici en jaune, bleu, en bas à gauche et orange, un pôle qui constitue tout de même 3/5 du département de l'Isère, c'est comment on intègre la proximité dans un pôle qui est à la fois sectorisé et qui, par ailleurs, porte des activités dites intersectorielles spécifiques. C'est-à-dire que nous avons ces trois secteurs et nous avons trois structures internes intersectorielles qui développent des activités en direction des personnes atteintes de troubles envahissants du développement, en direction des adolescents, rattachés à la maison des adolescents de l'Isère, et une troisième structure intersectorielle, les hôpitaux de jour 6-12 ans, moyenne enfance du pôle. Donc une question en termes de structuration, en gros, est-ce que le secteur I01 constitue une quatrième structure sectorielle du pôle, ou est-ce que nous l'articulons aux structures sectorielles existantes, et en particulier la structure centre du pôle en bleu, ou la structure sud du pôle en orange. Donc ça, c'est un premier point qui est un point de structuration. Ça a des conséquences, c'est-à-dire qu'à partir de la question est-ce qu'on change quelque chose ou est-ce qu'on intègre tel quel, eh bien, les conséquences se posent en termes de répartition des CMP existants sur le I01 à l'intérieur du pôle et en termes de répartition des ressources humaines, puisque nous avons un critère de répartition qui s'effectue au prorata des populations 0-18 ans desservies. Donc voilà, ces enjeux de structuration ont été importants. Le deuxième enjeu de l'entrée d'un secteur dans un pôle est un enjeu en termes de projet médical, c'est-à-dire qu'il y a un secteur qui arrive dans un pôle qui a un projet de pôle. Le projet de pôle en cours est un projet de pôle qui court sur les années 2011-2015, et ce projet médical de pôle comporte plusieurs axes. Le premier axe, c'est celui de renforcer l'offre de soins ambulatoires dans les zones excentrées du pôle. Vous avez vu sur la carte précédente, le pôle est immense, il comprend l'agglomération grenobloise, il comprend des territoires montagneux, c'est d'ailleurs le I01 est une vallée, c'est la vallée de l'Isère qui rejoint la Savoie. Et cette vallée de l'Isère, comme un sillon, est entourée de montagnes. Rive gauche, le massif de Beldonne, rive droite, la Chartreuse. Et ces montagnes sont faites de vallons qui débouchent dans la vallée. Donc l'idée, c'était de renforcer la zone excentrée de ce I01, comme nous renforçons les zones excentrées des autres structures sectorielles du pôle. Donc tenir compte de la configuration géographique, territoires ruraux et montagneux. Et si on peut avoir la carte précédente, celle-ci, constater que sur ce territoire du I01, le dernier CMP en termes de localisation se trouve ici, c'est-à-dire que vous avez toute la zone nord du I01 qui est dépourvue d'offres de soins ambulatoires. Et paradoxalement, dans nos régions, la demande est très importante dans ces lieux-là, puisqu'on y trouve énormément de foyers pour les enfants, énormément de familles d'accueil, avec parfois des problématiques très, très importantes. Donc, l'idée, diapo suivante, c'est de rompre l'isolement. Et Dieu sait si l'isolement, on l'a vu un petit peu tout à l'heure avec M. Terra, l'isolement est une problématique qui vient résonner avec les pathologies psychiatriques. Le deuxième axe du projet de pôle, c'est celui de renforcer l'offre de soins ambulatoires type centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Ce sont des structures de soins séquentielles et le renforcement de ces structures de soins semble en adéquation avec l'évolution de la demande. On est de plus en plus requis sur des situations très complexes, des diagnostics qui le sont tout autant, et avec des enfants et des adolescents qui sont en rupture dans leur trajectoire de vie. Et ce type d'accueil thérapeutique est intéressant pour ces enfants-là, plus peut-être que les murs de l'hôpital de jour. Le deuxième point d'adéquation qui nous a intéressés sur le plan de ce renforcement CATTP, c'est le lien avec la loi sur la scolarisation, puisque vous savez que depuis 2005, il nous est demandé de privilégier la scolarisation des enfants en situation de handicap. Donc ce type d'accueil est intéressant et on a voulu le réfléchir à l'échelle du I01 arrivant sur le pôle de pédopsychiatrie avec son projet de pôle. Le troisième point qui nous a semblé important, c'était certes, un secteur arrive, on a décidé
effectivement de le mixer et de le partager entre deux structures sectorielles existantes, le Sud et le Centre. Qu'en est-il des structures internes intersectorielles spécifiques du pôle ? Eh bien, nous avons décidé de tenir compte de cette structuration polaire et de renforcer et de conforter les articulations entre les structures sectorielles et structures intersectorielles du pôle. C'est un enjeu majeur du projet de pôle, et on l'a entendu hier, la question des soins de proximité et la question des soins spécifiques et leur articulation est un élément crucial du projet de pôle, plutôt que d'opposer le spécifique et le généraliste, entre guillemets, au niveau des CMP de proximité. Et donc, comment nous avons construit cette affaire-là ? On l'a construit en proposant notamment un accueil adolescent sur le CMP excentré à créer, et de mettre en place une équipe mobile dédiée à l'autisme sur le secteur arrivant sur le pôle, dans un CMP existant de ce secteur. Le quatrième point qui rejoint finalement le premier, hein, c'est celui du CMP excentré. Et c'est là que nous avons donc sollicité avec l'établissement le concours de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Et je vais donc laisser la parole à M. Clapp, qui va donc détailler un petit peu le travail que nous avons fait pour nous aider à la décision quant à l'implantation d'un CMP excentré sur un territoire géographique.
Merci, bonjour. Donc, je suis Pierre Clapp, chargé d'études à l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Nous avons été donc missionnés pour cette étude au niveau de la méthode et des résultats afin de préconiser un lieu d'implantation le plus pertinent possible dans ce territoire qui est le Grésivaudan. Alors, juste pour revenir un petit peu, voilà, donc on parle beaucoup de territoire. Il n'y a pas vraiment eu de définition claire jusqu'à présent. La géographie, on a beaucoup de chance, on travaille beaucoup sur le territoire, sur l'espace géographique. Il existe des définitions. Donc un territoire, donc, comme volonté et représentation, évidemment ce n'est pas de moi, plutôt de Schopenhauer, mais on est dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on est dans un espace géographique physique qui est aménagé et délimité, borné par un groupe, une société, une collectivité. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que dans cette étude, au niveau du Grésivaudan, on est resté cantonné à la communauté de communes du Grésivaudan pour faire corps, pour faire système. Notre objectif et notre rôle dans ce rapport, c'est éminemment un rôle d'aide à la décision, une force de proposition. On n'ira pas au-delà. Donc là, je vais vous présenter les méthodes employées pour essayer de préconiser au mieux un lieu d'implantation en fonction de l'accessibilité des données sociodémographiques. Et puis, je vais simplement vous présenter quelques exemples illustrés, principalement cartographiques, graphiques. Évidemment, c'est un rapport complet avec rédaction et autres éléments, mais c'est vrai que ça parle mieux lorsqu'on présente des cartes ou des graphiques. La méthode a consisté à appréhender donc en quelques points succincts mais très importants les temps d'accès simulant en transport. Alors je corrige, ces transports en commun que nous avons utilisés et individuels. Donc on a essayé de combiner les deux types de transports, donc en commun, train, bus, tram, quand il faut, mais là ce n'était pas l'occasion, et individuel, principalement voiture. À l'intérieur de ces temps d'accès, nous avons analysé les structures et les dynamiques sociodémographiques, qui sont très importantes, dans des aires de 5, 10, 15, 20 minutes, au-delà même. On s'est arrêté au niveau des transports individuels à 1 heure et au niveau des transports en commun à 2 heures, mais ce n'était pas nécessaire. C'est-à-dire que le temps d'accès le plus pertinent pour accéder à un CMP a été souvent limité à 20 minutes, et c'est dans nos résultats, ça a été un petit peu la frontière. Sachant qu'au niveau des structures sociodémographiques, forcément, les dynamiques créent des structures et issues de ces structures naissent aussi des dynamiques. Mais ce n'est pas parce que les choses bougent dans un territoire qu'elles changent. Voilà, donc c'est très important de noter cela pour relativiser un petit peu les résultats, pour relativiser aussi les recensements, les évolutions démographiques. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des structures qui se créent, mais qui souvent sont pérennes. Au-delà de cela, on a travaillé sur les futurs programmes aussi de logement, ça c'est important, d'avoir une vision jusqu'en 2018-2020 des futurs programmes en matière de ZAC, par exemple, de logement, pour savoir quels seraient les apports susceptibles de nouvelles populations en fonction des livraisons de logements, des dates prévues et des types de logements. Ça, c'est très ambitieux au niveau des types, mais on peut avoir déjà une idée en matière de livraison de logements, quels seraient les apports éventuels en termes de population, de jeunes de moins de 20 ans, par exemple. Nous avons aussi étudié le gisement foncier dans les communes pressenties du Grésivaudan. Il y avait 3 communes. Et dans ces 3 communes, on a travaillé justement sur le potentiel foncier pour savoir s'il était possible de pouvoir y implanter un CMP, avec des exigences en matière de programmation architecturale, mais qui étaient assez simples finalement. Mais c'était important de pouvoir, en disant sur telle commune, oui, il y a un potentiel foncier, on pourrait y installer un CMP. Et évidemment, ensuite, on a travaillé sur les préconisations du SCOT, puisqu'il y a des notions dans ces SCOT, donc dans ces... comment dire, un document d'urbanisme prospectif d'aménagement du territoire sur une durée de 20-30 ans qui réfléchit alors sur les logiques d'habitat, sur les logiques de déplacement, d'environnement, de zones commerciales. C'est-à-dire que c'est un document global qui avait préconisé des pôles dans le Grésivaudan, des pôles principaux, par exemple comme Pontcharra, des pôles en matière d'équipement et de services, et des pôles d'appui. Et c'était très important pour nous que ces communes soient inscrites dans ces pôles. C'était le cas, tant mieux, et sinon ça aurait été, on peut dire, plus ou moins rédhibitoire pour garder la logique prospectiviste. Donc au niveau des résultats, alors certes, la carte ne fait pas le territoire, c'est une représentation. Le territoire, c'est un concept issu d'un monde, d'un espace géographique. Mais forcément, la carte est un appui. C'est un outil de la décision. Et à partir de là, forcément, il y aura des conséquences. Lorsqu'on aura analysé le territoire, lorsqu'on aura en son sein travaillé sur les dynamiques et les structures, on pourra préconiser forcément des structures qui elles-mêmes auront des conséquences. Alors un exemple, j'aurais aimé pouvoir zoomer sur les cartes, mais c'est toujours difficile avec un diaporama. Un exemple ici, des moins de 20 ans, dans le Grésivaudan. Donc en volume, en cercle proportionnel, le poids, le volume démographique, le nombre pour être clair, et à l'intérieur des cercles, la dynamique. Donc en temps froid, une variation négative, en temps chaud, une variation positive, pour être assez succinct. À partir de là, nous avons étudié le territoire, pas seulement sur l'aspect démographique, mais sur d'autres aspects, sur les CSP, dites défavorisées, qui pouvaient être impliquées dans ce genre de projet. Alors, CSP défavorisées, ça peut être des ouvriers, des retraités employés, retraités ouvriers, des personnes sans activité, notamment. Je vais vite, je suis désolé, il y a pas mal d'exemples cartographiques. Alors, je ne sais pas si j'ai passé. Voilà. On arrive à une notion de l'INSEE des bassins de vie. Les fameux bassins de vie, ce sont des petits territoires, à l'intérieur même d'autres territoires, comme là ça a été le cas pour la communauté de communes, où les habitants ont accès aux équipements les plus, on va dire, rudimentaires pour le quotidien. Ça peut être les boulangeries, ça peut être la presse, ça peut être une école, ça peut être un collège, ça peut être des tas de choses qu'on utilise, qu'on occupe, qu'on investit au quotidien. Nous avons travaillé sur ces bassins de vie parce qu'il y a des exemples, comme dans le bassin de vie d'Alvar, sur la carte, à l'est, donc sur votre droite, qui sont assez spécifiques et relativement excentrés. Donc dans cette zone et dans cette partie excentrée déjà étudiée, il y avait un bassin de vie qui était également excentré, qui a fallu un petit peu, considérer dans son approche et surtout en matière de désenclavement. Derrière, les autres bassins de vie correspondaient à, par rapport à la géographie qui a très bien été expliquée, je ne vais pas la redire, mais c'est vrai qu'on est dans une vallée bordée de massifs donc très connus, Chartreuse ou de Belledonne, avec derrière peu d'espaces de franchissement, 6 ou 7 dans la vallée, pour passer d'une rive à l'autre, avec des caractéristiques spécifiques qui, là, ne ressortent pas forcément dans les bassins de vie, mais qui, lorsqu'on regarde, je vais reprendre la démographie, si j'y arrive, Oui. Au niveau, par exemple, de la rive gauche, donc sur votre droite, avec une dynamique assez importante des moins de 20 ans. Donc ça vient compléter ces données, la notion d'occupation et de gestion au quotidien des territoires, c'est-à-dire les bassins de vie, et tous ces éléments ont été croisés. Un autre exemple cartographique sur les niveaux d'équipement en santé, par exemple, où en termes de volume, on s'est intéressé au nombre par commune, par centre-bourg d'équipements, alors en matière de médecins, pédiatres, urgentistes, orthophonistes, voire taxis, lorsque c'était nécessaire pour transporter les patients. Et à partir de cette carte-là, on est toujours en cette logique de volume, c'est-à-dire le nombre d'établissements, d'équipements de santé, et à l'intérieur, le niveau d'équipement pour 1000 habitants. Donc c'était intéressant pour nous aussi de savoir un petit peu comment était structurée la communauté de communes. Il s'avère qu'en moyenne, le niveau d'équipement est relativement bien pourvu, c'est-à-dire environ 6-7 équipements pour 1000 habitants, ce qui est au-delà même, je crois, de la moyenne Rhône-Alpes. Mais bon, ça fait partie d'exemples cartographiques pour représenter les territoires, pour mieux les comprendre. Évidemment, ce sont des éléments justes de compréhension, mais qui nous ont servi dans l'analyse. On en vient à la notion d'accessibilité. La notion d'accessibilité et de bassin d'accessibilité. Nous avions en comparaison 3 communes à étudier, donc Pontcharrat, Gonselin, Le Touvet, et nous avons travaillé sur cette notion de bassin d'accessibilité. Alors là, pour des raisons pratiques, à partir de transports individuels, c'est-à-dire je suis à tel endroit du territoire, quelle est la commune parmi ces 3 pressenti, et ici l'espace intimier qui a aussi son bassin qu'on a confronté avec les autres, quelle est la commune où je me rends le plus rapidement? C'est pas plus compliqué. Je suis à tel endroit du territoire, bon, forcément en montagne, mais est-il plus facile de me rendre à Pontcharrat ou à Gonselin? Ici, ça sera plus rapide de me rendre à Gonselin, etc., etc. Et en découle là des aires. Deux aires de chalandise, comme on pourrait dire dans certains milieux, mais des bassins d'accessibilité. Alors, un exemple où nous avons travaillé comme cela avec les 3 communes, là ce sont sur des aires définies, déclinées toutes les 5 minutes, jusqu'à 1 heure. Donc là c'est juste une carte d'illustration, où c'est très difficile, je pense, de les distinguer ici. En tons foncés, on est autour de 5 minutes de temps d'accès, et plus on va vers les tons jaunes, plus on est vers l'heure de déplacement, pour caractériser ici. Donc on l'a étudié à chaque fois, et nous avons déterminé des aires d'accessibilité, toutes les 5, 10, 15, 20 minutes. Et également, alors, juste pour exemple, en une heure, en partant de Gonselin, en une heure, j'arriverai à cet endroit-là. Il faudra 2 heures en transport en commun. C'est tout à fait normal. C'est dû aux fréquences et au temps nécessaire. Alors, je vais prendre la carte ici. C'est redoutable comme... Voilà. Une carte d'accessibilité, mais en transport en commun. On n'a plus du tout les mêmes aires. On s'est autorisé 15 minutes de marche à partir des arrêts de transport en commun. Et lorsqu'il me fallait, par exemple, 1 heure pour venir jusqu'à tel endroit du territoire, en transport en commun, il faudra 2 heures, ce qui est absolument normal. C'est inhérent au type de transport, mais en même temps, nous avons pu délimiter des aires de temps de parcours, d'accessibilité. À l'intérieur de ces aires, nous avons étudié les populations. Et voici donc un résultat graphique. À partir de ces calculs, de ces croisements de données, où lorsque, par exemple, nous étions parmi, on va prendre les 20 premières minutes, en transport en commun, on peut englober environ 1500 jeunes de moins de 20 ans. Lorsque nous travaillons et nous croisons les données avec un transport individuel type voiture, nous sommes à 20 000. C'est normal. La zone, l'air d'accessibilité beaucoup plus étendue en voiture. Et à partir de ces éléments-là, nous avons confronté les communes entre elles. Alors, nous avons pris la population totale, la population des moins de 20 ans, les CSP défavorisés, les familles monoparentales et les éventuels futurs logements dans chaque aire d'accessibilité. Donc là, pour faire simple, nous avons pris les 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. On n'est pas allé au-delà. On aurait pu calculer presque jusqu'à l'infini, mais ça n'avait pas forcément d'intérêt, de pertinence par rapport à l'accessibilité d'un CMP qui serait convenable à partir de 20 minutes de temps d'accès. Voilà un petit peu, pour résumer la démarche, ce sont des aides juste graphiques, puisque je me suis beaucoup attaché dans cette présentation à ces éléments-là, mais c'est pour un petit peu définir ce qui nous a servi, nous, dans notre méthode et dans nos résultats. Ce sont un ensemble de croisements de données qui nous ont permis, in fine, de préconiser un emplacement le plus pertinent possible. Alors évidemment, lorsqu'on est dans des communes du Grésivaudan, et lorsqu'elles sont rapprochées, les marges, les frontières, les différences sont ténues. Il n'y a pas forcément d'enjeux majeurs et de grandes différences. Mais quand même, nous, on intervient en tant que soutien, en tant que bureau d'études, des aides à la décision. Et on s'arrête là. Notre rôle s'est arrêté là dans cette étude. Juste pour terminer et pour enchaîner ensuite sur l'aspect décisionnel en tant que tel, nous avons simplement ensuite comparé nos résultats. Donc c'est alors je suis navré pour la représentation sur l'écran. C'est un tableau synoptique où nous avons confronté les communes entre elles, Pontcharra, Le Touvet, Gonselin, à partir de critères qui vont servir à la décision. Critères d'accessibilité et de population impactée, critères de compatibilité avec le SCOT et critères donc, de potentiel foncier aux alentours d'un arrêt de transport en commun qui nous paraissait, nous, plus pertinent, puisque dans un CMP et dans infanto-juvénile, il y avait cette notion justement de pouvoir être accessible par tous, par des familles défavorisées qui n'ont pas forcément de voiture, justement, et qui peuvent se déplacer beaucoup en transport en commun. Donc c'était très important pour nous d'avoir cette notion d'accessibilité en transport en commun, mais également avec cette notion de potentiel de gisement foncier autour d'un arrêt de transport en commun, ce que nous avons étudié également. Je ne donnerai pas les résultats, puisque ce n'est pas forcément nécessaire ici, mais voici un petit peu la démarche, la méthode et les résultats que nous avons obtenus. Merci.
Alors, je reprends la parole pour conclure sur les résultats. D'abord, l'intérêt de ce travail, j'ai envie de dire, c'est de réunir des personnes de mondes différents. On parlait hier de l'équipe mobile à destination du médico-social autour de l'autisme, on en a parlé hier. Je crois que ce qui est fondamental dans cette affaire, c'est les articulations, c'est travailler ensemble et réunir des personnes aux qualifications très différentes pour aboutir à des décisions. Donc là, on a fait travailler géographes, démographes, prospectivistes et bien sûr nous sur un projet d'implantation. Et l'idée, finalement, c'est de passer du subjectif à l'objectif. Parce que le subjectif, il se résumait en une seule phrase, à mon sens. À l'époque, avant de commencer l'étude, c'était « on va implanter ce CMP dans la ville la plus peuplée, là où il y a le plus de collèges et de lycées et de partenaires de l'enfance ». On aurait raisonné comme ça, c'était vite réglé, ça se situait à la frontière de la Savoie, à Pontcharra, et on n'en parlait plus. Il se trouve que lorsqu'on a croisé, effectivement, les critères, on a débouché sur une objectivité nettement améliorée. On peut passer à la suivante. Donc, il s'agit en fait de croiser des critères dans plusieurs dimensions. Le croisement des critères de la URG, on vient de l'entendre. Et puis, les critères du pôle. C'est là que nos articulations aussi s'interrogent. Comment, effectivement, développer l'offre de soins ambulatoires des zones excentrées, je l'ai déjà dit, articuler les prises en charge et dispositifs spécifiques du pôle au CMP de proximité, c'est vraiment un axe très important pour moi. Et puis, deuxième point, tenir compte des facteurs d'attractivité, parce que excentrer un CMP, oui, très intéressant, très important pour les populations, mais attention, pas trop, car il y a des difficultés de recrutement à distance, et à distance de l'établissement de rattachement, à distance de l'agglomération grenobloise. Nous avons sur le pôle Pige actuellement 4 CMP excentrés dans les territoires montagneux et ruraux, et on voit bien les difficultés que nous avons à recruter sur ces territoires. Donc, si vous voulez, entre trois solutions, Le Touvet, Pontcharra et Gonselin, voisines sur le plan des critères AERG, ce critère d'attractivité et de recrutement des ressources humaines a été décisif quant à la décision que nous avons prise. Et on passe à la suivante. Et au final, la décision qui a été prise, c'était de mettre en place, d'implanter un CMP sur la rive de l'Isère, hébergeant les populations les plus précaires, au débouché d'un vallon montagneux, fortement peuplé, au croisement des réseaux de transport collectif conséquents, en lien avec le SCOT, le schéma d'organisation du territoire, et sur une commune au gisement foncier prometteur. Et puis, une fois qu'on a décidé de l'implantation de ce CMP, il y a des conséquences en cascade. Parce que quand vous positionnez un CMP à un endroit, vous interrogez l'existant sur le secteur en question. Et donc, la phase 2 du travail que nous allons mener avec l'AERG en 2014, c'est celle d'interroger, à la lumière de cette implantation initiale excentrée, la répartition de l'offre de soins globale sur le I01, et en particulier au niveau de sa frontière avec l'agglomération grenobloise, comment on travaille dans l'articulation avec la ville de Grenoble pour, et en fonction des polarités urbaines, de l'évolution démographique de cette ville de Grenoble, de l'organisation des transports et du projet de pôle, comment on renforce le service à la population grenobloise. Donc vous voyez un exemple de travail conjoint sur un projet excentré débouche sur une interrogation à l'échelle globale du pôle en termes de structuration et à l'échelle globale de la ville de Grenoble et de son agglomération. C'est la phase 2 2014. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Peut-être, Pascal, pour faire la transition avec la discussion, rappeler deux ou trois points qui nous paraissent importants. La première, c'est de rappeler que cette présentation elle vous est faite sur la psychiatrie infanto-juvénile, qui, plus encore que la psychiatrie adulte, doit être attentive à l'ambulatoire, puisque c'est à une écrasante majorité sur le mode de l'ambulatoire que se fait l'offre de soins. Deuxièmement, signaler que ce travail a été réalisé avec l'appui de l'agence de la communauté d'agglomération de Grenoble, que représentait hier Alain Grasset, qui a accepté que ce travail soit financièrement soutenu, ce qui n'est pas anodin par cette institution. Et enfin, dire que rappeler avant le débat que cette réflexion sur les secteurs intervient sur des secteurs qui ont été constitués dans les suites des années 60, vraiment au doigt mouillé, sur des logiques de répartition de moyens et sans aucune logique réelle d'aménagement du territoire.
Donc pour faire le lien, c'est vrai que dans cette affaire, je suis un peu jugé parti, donc je n'ai pas beaucoup commenté, mais ça, c'est très exactement ça, c'est-à-dire c'était mettre de la rationalité là où il n'y en avait pas forcément. Alors le résultat, il n'est pas toujours diamétralement opposé à ce qu'on pourrait parfois faire au feeling, mais là, en l'occurrence, donc c'est la commune de Gonselin qui a été choisie, et celle-là, on ne l'avait pas du tout en tête quand on a commencé l'étude. Donc ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, pour préciser encore ce que Pierre Micheletti vient de dire, l'appui de la métropole grenobloise, parce que ça consomme de la ressource, hein, évidemment, c'est 40 jours d'études sur l'année, qui ne sont donc pas financés par l'établissement, puisque c'est droit, on est adhérent de l'agence, mais ce sont des droits de tirage qui sont ceux de la métropole parmi les adhérents. Ensuite, l'idée, c'est de créer pour nous, pour la suite, mais aussi pour les autres, des outils et des modèles qui soient reproductibles, on va dire, en tout temps et en tout lieu, et qui soient multifactoriels. Voilà ce qu'on peut en dire à ce jour. Et puis le dernier point, ça c'est plutôt personnellement que je le souligne, c'est que c'est un travail qui, avec l'appui d'une cellule de planification interne à l'établissement, est mené par le pôle. Donc la décision de la direction, c'est d'abord la décision du pôle. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude est diligentée par le pôle. À partir de là, je dirais, de par la rationalité qu'on a au bout, après, il faut trouver à construire, hein, c'est la suite, ou à acheter, ou à louer, que sais-je encore. Mais la logique, elle suppose d'aller jusqu'au bout. On ne se substitue pas à la fin, par une autre décision, à celle que l'étude menée par le pôle induit ou implique. Je voulais le préciser au passage. Peut-être qu'avant de passer à une série de questions, on va demander à Rémi Mas, donc de l'adresse, de rester à ce moment-là peut-être à la tribune, comme vous voulez, de faire la partie prospective, parce que ces sujets, on les avait présentés à l'adresse, notamment l'année dernière, sur une phase préalable qui était le découpage de pôle adulte. Et j'avais souhaité que Rémi nous donne quelques orientations prospectives sur la façon dont l'adresse envisageait ces questions de planification de l'offre de soins territoriale. Donc merci à lui d'avoir accepté d'intervenir.